Mais non, il me paraît qu'Anitos se fâche. Et je ne m'en étonne pas, car d'abord il s'imagine que je dis du mal de ces grands hommes. Et de plus, il se flatte d'être de ce nombre. Mais s'il vient jamais à connaître ce que c'est que dire du mal, il cessera de se fâcher. Pour le présent, il l'ignore. Dis-moi donc, Ménon, n'avez-vous point aussi chez vous des honnêtes gens ?
Assurément.
Eh bien, veulent-ils servir de maître aux jeunes gens ? Se donnent-ils pour l'être ? Et reconnaissent-ils que la vertu peut s'enseigner ?
Par Jupiter, non, Socrate. Mais tu leur entendras dire tantôt que la vertu peut s'enseigner, tantôt qu'elle ne le peut pas.
Tiendrons-nous donc pour maîtres de vertu ceux qui ne sont pas encore convenus si la vertu peut avoir des maîtres ?
Je ne le pense pas, Socrate.
Mais quoi ? Ces sophistes, les seuls qui se portent maîtres en fait de vertu, le sont-ils, à ton avis ?
Ce qui me plaît surtout dans Gorgias, Socrate, c'est qu'on ne l'entendra jamais promettre rien de semblable. Au contraire, il se moque des autres, qui se vantent de l'enseigner. Pour lui, il se flatte seulement d'être capable de rendre habile dans l'art de la parole.
Ainsi, tu ne juges pas que les sophistes soient des maîtres de vertu.
Je ne sais que répondre là-dessus, Socrate. Je suis à cet égard dans le même cas que bien d'autres. Tantôt, ils me paraissent tels, tantôt, non.
Sais-tu que vous n'êtes pas les seuls, toi et les autres politiques, qui pensiez tantôt que la vertu peut s'enseigner, tantôt qu'elle ne le peut pas. Et que le poète Théonis dit la même chose.
Où donc ?
Dans ses élégies, où il dit « Bois, mange avec ceux qui jouissent d'un grand crédit. Tiens-toi auprès d'eux et tâche de leur plaire, car tu apprendras de bonnes choses avec les bons. Mais si tu fréquentes les méchants, tu perdras même ce que tu as de raison. » Vois-tu que dans ses vers, il parle comme si la vertu pouvait s'enseigner ?
Évidemment.
Ailleurs, il change un peu d'avis. Si l'on pouvait donner à l'homme l'intelligence, alors, dit-il, ils en retireraient de grandes sommes d'argent, ceux qui en seraient capables. Jamais le fils d'un père vertueux ne deviendrait méchant en suivant ses sages conseils. Mais toutes les leçons ne feront point d'un méchant un honnête homme. Remarques-tu comment il se contredit sur les mêmes objets ?
Cela est évident.
Pourrais-tu me nommer quelque autre chose où ceux qui font profession de l'enseigner, loin d'être regardés en ce point comme des maîtres, passent au contraire pour ne la point savoir eux-mêmes et pour être mauvais là même où ils se vantent d'être maîtres ? Et où ceux que l'on tient pour bons et habiles disent tantôt qu'elle peut s'enseigner, tantôt qu'elle ne le peut pas. Reconnaîtrais-tu pour de véritables maîtres, en quoi que ce soit, des hommes qui seraient aussi troublés ?
Non, pas moi, par Jupiter.
Si donc ni les sophistes, ni les gens de bien eux-mêmes ne sont maîtres de vertu, il est évident que personne ne l'est.
Il ne me paraît pas.
Mais s'il n'y a point de maître, il n'y a pas non plus de disciple.
La chose me semble telle que tu le dis.
Or, nous sommes convenus qu'une chose qui n'a ni maître ni disciple ne peut s'enseigner.
Nous en sommes convenus.
Et nous ne voyons nulle part de maître de vertu.
Cela est vrai.
Puisqu'elle n'a point de maître, elle n'a pas non plus de disciple.
Je l'avoue.
La vertu ne peut donc pas s'enseigner ?
Il n'y a pas d'apparence, si nous nous y sommes pris comme il faut dans cet examen. Cependant, Socrate, je ne comprends pas qu'il n'y ait point, en effet, de gens vertueux, ou, s'il y en a, de quelle manière ils sont devenus tels.
Mais non, il paraît que nous ne sommes guère habiles, ni toi, ni moi, et que nous avons été mal formés, toi par Gorgias, moi par Prodicos. Il faut par conséquent donner tous nos soins à nous-mêmes, plus qu'à nulle autre chose, et chercher quelqu'un qui nous rende meilleurs par quelque moyen que ce soit. Je dis cela en revenant sur la recherche que nous venons d'entreprendre, et je trouve ridicule pour nous de n'avoir point aperçu que la science n'est pas le seul guide qui permette aux hommes de bien conduire leurs affaires. C'est peut-être pour cela que nous échappe aussi la manière dont se forment les hommes de bien.
Que veux-tu dire par là, Socrate ?
Le voici. Nous avons eu raison d'admettre que les hommes vertueux doivent être utiles, et que la chose ne saurait être autrement, n'est-ce pas ?
Oui.
Nous avons encore bien fait d'accorder qu'ils ne seront utiles qu'autant qu'ils conduiront bien les affaires.
Oui.
Mais il paraît que nous avons eu tort de convenir qu'on ne peut bien gouverner les affaires sans sagesse.
Pourquoi aurions-nous eu tort ?
Je vais te le dire. Si quelqu'un, sachant le chemin qui conduit à Larissa, ou en tel autre endroit qu'il te plaira, se mettait lui-même sur cette route et servait de guide à d'autres, ferait-il autre chose que bien les conduire ?
Sans doute.
Mais un autre qui se ferait une opinion juste de ce chemin, quoiqu'il n'y eût pas été et qu'il ne le sût pas, ne les conduirait-il pas bien aussi ?
Assurément.
Et tant qu'il aura une opinion vraie sur les mêmes objets, dont l'autre a une pleine connaissance, il ne sera pas moins bon guide que lui, quoiqu'il atteigne le vrai par conjecture et non par science, tandis que l'autre possède la science.
Soit.
Ainsi, l'opinion vraie ne dirige pas moins bien que la sagesse par rapport à la rectitude d'une action. Et voilà ce que nous avons omis d'examiner dans notre recherche sur la vertu, quand nous avons dit que la sagesse seule apprend à bien agir. L'opinion vraie produit le même effet.
Tu as raison.
L'opinion vraie n'est donc pas moins utile que la science.
Avec cette différence, Socrate, que celui qui a la science en partage arrive toujours à son but, au lieu que celui qui n'a que l'opinion vraie, y parvient quelquefois, et quelquefois aussi le manque.
Que dis-tu ? Quand on a toujours l'opinion vraie, ne parvient-on pas toujours au but, tant qu'on est dirigé par cette vraie opinion ?
Cela me paraît incontestable. Mais la chose étant ainsi, je suis étonné, Socrate. Pourquoi on fait beaucoup plus de cas de la science que de l'opinion droite ? Et pourquoi ce sont deux choses différentes ?
Sais-tu d'où vient ton étonnement ? Où te l'apprendrai-je ?
Apprends-le-moi.
C'est que tu n'as pas fait attention au statut de Dédale. Peut-être n'en avez-vous pas chez vous ?
À quel propos dis-tu cela ?
Parce que ces statues, si elles ne sont pas attachées, s'échappent et s'enfuient, au lieu que celles qui sont arrêtées demeurent en place.
Qu'est-ce que cela fait ?
Ce n'est pas une chose bien précieuse d'avoir quelqu'une de ces statues qui ne sont point arrêtées, comme d'avoir un esclave fuyard, car elles ne restent point en place. Mais pour celles qui sont arrêtées, elles sont d'un grand prix, et ce sont véritablement de beaux ouvrages. À quel sujet ai-je rapporté ceci ? Au sujet des opinions vraies. En effet, les opinions vraies, tant qu'elles demeurent, sont une belle chose et produisent toutes sortes d'avantages. Mais elles ne veulent guère demeurer longtemps et elles s'échappent de l'âme de l'homme, en sorte qu'elles ne sont pas d'un grand prix, à moins qu'on ne les arrête en établissant entre elles le lien de la cause à l'effet. C'est, mon cher Ménon, ce que nous avons convenu d'appeler précédemment réminiscence. Ces opinions, une fois liées, deviennent d'abord science, et alors demeurent stables. Voilà par où la science est plus précieuse que l'opinion droite et comment elle en diffère par l'enchaînement.
Par Jupiter, il paraît bien, Socrate, que c'est quelque chose d'approchant.
Je n'en parle pas non plus comme un homme qui sait, mais je conjecture. Cependant, lorsque je dis que l'opinion vraie est autre chose que la science, je ne pense pas du tout que ce soit là une conjecture. Si je pouvais dire de quelque chose que je la sais, et je l'oserais de bien peu de choses, j'assurerais que celle-ci est du nombre de celles que je sais.
Tu as raison, Socrate.
Mais quoi ? N'ai-je pas encore raison quand je soutiens que si l'opinion vraie dirige une action, elle ne l'exécutera pas moins bien que la science ?
Je crois que tu dis vrai encore en cela.
Ainsi, l'opinion droite n'est ni inférieure à la science, ni moins utile par rapport aux actions. Et à cet égard, celui qui a l'opinion droite ne le cède point à celui qui a la science.
J'en conviens.
Or, nous sommes convenus que l'homme de bien est utile.
Oui.
Par conséquent, puisque les hommes de bien, utiles aux cités, s'il y en a, sont-elles non seulement par la science, mais aussi par l'opinion droite, et que ni l'une, ni l'autre, ni la science, ni l'opinion vraie ne sont un présent de la nature. Mais crois-tu que l'une ou l'autre soit un présent de la nature ?
Je ne le pense pas.
En ce cas, les hommes de bien ne sont donc pas tels par nature ?
Non, sans doute.
La vertu n'étant point naturelle à l'homme, nous avons examiné ensuite si elle pouvait s'enseigner.
Oui.
Il nous a semblé qu'elle pouvait s'enseigner à la condition qu'elle fût une sagesse, n'est-ce pas ?
Oui.
Et qu'elle était une sagesse à la condition qu'elle pût s'enseigner.
Oui.
Et que s'il y avait des maîtres de vertu, elle pouvait s'enseigner. Que s'il n'y en avait point, elle ne le pouvait pas.
Oui.
Or, nous sommes convenus qu'il n'y a point de maître de vertu.
Cela est vrai.
Nous avons reconnu, par conséquent, qu'elle ne peut s'enseigner et qu'elle n'est point une sagesse.
Oui.
Mais nous sommes d'accord qu'elle est un bien.
Oui.
Et que ce qui dirige bien est bon et utile.
Oui.
Et que deux choses seulement dirigent bien, l'opinion vraie et la science, avec le secours desquels l'homme dirige bien. Car ce qui arrive par hasard n'est point l'effet d'une direction humaine. Et ces deux choses seulement font que l'homme dirige comme il faut l'opinion vraie et la science.
Je pense de même.
Or, puisque la vertu ne peut pas s'enseigner, déjà, elle n'est pas la science.
Évidemment non.
De ces deux choses bonnes et utiles, en voilà donc une mise hors de rang, et la science ne saurait servir de guide dans les affaires politiques.
Il me semble que non.
Par conséquent, ce n'est point par une certaine sagesse, ni en étant sages eux-mêmes, que Thémistocle et les autres dont Anytos parlait tout à l'heure ont gouverné les cités. C'est pourquoi ils n'ont pu rendre les autres ce qu'ils étaient eux-mêmes, parce qu'ils n'étaient point tels par science.
Il y a apparence que la chose est comme tu dis, Socrate.
Si donc ce n'est point la science, reste que ce soit l'opinion vraie qui dirige les politiques dans la bonne administration des cités. En fait de sagesse, ils ne diffèrent en rien des prophètes et des devins. En effet, ceux-ci annoncent beaucoup de choses vraies, mais ils ne savent aucune des choses dont ils parlent.
Très vraisemblablement.
Mais ne convient-il pas, Ménon, d'appeler divins ceux qui, étant dépourvus d'intelligence, réussissent en je ne sais combien de grandes choses qu'ils font et qu'ils disent ?
Oui.
Nous aurons donc raison de nommer divins les prophètes et les devins dont on vient de parler, et tous ceux qui ont le génie poétique. Et nous serons pour le moins aussi bien fondés à accorder ce titre aux politiques, les regardant comme des hommes saisis d'enthousiasme, inspirés et possédés par la divinité, lorsqu'ils réussissent en parlant sur bien des affaires importantes, sans avoir aucune science sur ce qu'ils disent.
Assurément.
Aussi les femmes, mais non, Appelle-t-elle divins les hommes vertueux? Et les lacédémoniens, quand ils veulent faire l'éloge d'un homme de bien, disent « c'est un homme divin ».
Il est évident, Socrate, qu'ils ont raison, quoique peut-être Anytos s'offense de tes discours.
Je ne m'en mets pas en peine, je m'entretiendrai avec lui une autre fois, mais non. Pour ceux qui nous regardent, si dans tout ce discours nous avons examiné et traité la chose comme nous devions, il s'ensuivrait que la vertu n'est point naturelle à l'homme, ni ne peut s'apprendre, mais qu'elle arrive par une influence divine à ceux en qui elle se rencontre, sans intelligence de leur part, à moins qu'on ne nous montre quelque politique en état de communiquer son habileté à un autre. S'il s'en trouve un, nous dirons presque de lui qu'il est entre les vivants ce qu'est Tirésias entre les morts, au rapport d'Homère, lequel dit de ce devin qu'il est le seul sage chez Hadès et que les autres ne sont que des ombres errantes. De même, cet homme serait, à l'égard de la vertu, comme un être réel parmi les ombres.
Cela me paraît parfaitement bien dit, Socrate.
Il paraît donc, d'après ce raisonnement, mais non, que la vertu vient par un don de Dieu à ceux qui la possèdent. Mais nous ne saurons le vrai, à ce sujet, que lorsqu'avant d'examiner comment la vertu se trouve dans les hommes, nous entreprendrons de chercher ce qu'elle est en elle-même. Maintenant, il est temps que je me rende quelque part. Pour toi, persuade à ton hôte, Anytos, les choses dont tu es persuadé toi-même, afin qu'il soit plus traitable. Et si tu réussis à le convaincre, tu rendras service aux Athéniens.